lieu de parler du père Marie-Joseph Lagrange aujourd'hui. D'abord parce que je ne l'ai jamais fait en public. Je n'ai jamais parlé du père Lagrange. J'ai parlé de beaucoup de choses en public, mais pas du père Lagrange. Et je tiens à saluer ici celui qui aurait dû parler aujourd'hui, hein, le frère Jean-Luc Vesco, qui est un éminent exégète, un grand professeur d'écriture de la province de Toulouse, mais qui est à Paris, qui n'a pas pu venir parce qu'il est fatigué, je crois. Donc je me suis improvisé à parler du père Lagrange, que par ailleurs j'ai beaucoup étudié. Donc j'étais heureux de pouvoir le faire. Je suis ensuite très ému de parler de cette figure qui joue un rôle très important dans ma vie dominicaine personnelle. On a chacun ses figures. Le père Lagrange me tient très à cœur. Et en plus parce que je viens en parler pour la première fois dans son lieu de naissance, à Bourg-en-Bresse. Donc, belle émotion. Alors, tout à l'heure, je vous disais que Saint-Dominique est caché dans la lumière. Eh bien, du père Marie-Joseph Lagrange, on pourrait dire un petit peu la même chose aussi. C'est-à-dire que c'est une figure qui a joué un rôle dont il n'est pas exagéré de dire qu'il est assez considérable, et je vais tâcher de valoriser dans l'Église, et que pour une bonne part, l'Église tout entière universelle aujourd'hui vit, alors non pas de son travail à lui tout seul, mais du travail de gens qui, comme lui, ils étaient très peu nombreux, au début du XXe siècle, ont porté à bout de bras le combat de ce qu'on appelle la question biblique. Ils sont peu nombreux, vous allez voir qu'ils ont beaucoup souffert, ils ont été beaucoup dérangés, mais ils ont combattu pour une vérité qui aujourd'hui s'impose à toute l'Église, et qui nous paraît aller de soi. Et des personnes comme lui ont vraiment porté à bout de bras, et leur fécondité évidemment est liée à leur capacité d'obéir. Ce sera une des articulations de ma conférence, vous verrez un magnifique exemple d'obéissance, mais d'obéissance dominicaine, en tout cas d'obéissance dans l'intelligence. Donc une grande figure, mais qui est peu connue dans l'Église. Alors, il y a un contraste entre l'immensité de son influence. Alors, il est très connu dans les milieux savants, c'est un nom, maintenant ça commence à faire un peu vieillot, parce qu'il écrivait il y a plus d'un siècle, mais enfin, il reste une référence, mais dans le corps du peuple de Dieu, il n'est pas très connu. Peu de gens, alors à Bourg, on le connaît parce qu'il est fils de la ville, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui les chrétiens le prient beaucoup, le connaissent beaucoup. Il représente ce qui nous semble être, à nous dominicains, dominicaines, une véritable figure de sainteté, au point qu'aujourd'hui, depuis des années, a été entamée une procédure de béatification, avec des enquêtes nombreuses, des études historiques très poussées. Le dossier est à Rome, il n'est pas dans la lumière pour l'instant, dans les caves du Vatican, où il dort, on attend, c'est très long. Voilà. C'est pas une figure rayonnante qui mobilise des foules. C'est pas un homme qui a fait des quantités de miracles au sens précis du terme. Voilà. Il n'est pas prié par des quantités de gens. Bon. Donc c'est une figure relativement cachée, alors même que son influence, et je vais tâcher de le montrer, est considérable et que nous vivons tous des résultats du travail opéré par ces gens de ce genre de frères ou de personnes dans leur cabinet. Il représente d'autre part, à l'intérieur des figures dominicaines, de tous les successeurs, enfin les fils de Saint-Dominique, une figure très particulière qui est celle du savant. Alors, c'est vrai que les savants en général ne sont pas très populaires, parce qu'on dit leurs études sont compliquées, on ne sait pas trop de quoi ils parlent, on aime mieux des prédicateurs plus connus, plus populaires, bon. Et en même temps, il faut des gens comme ça. Dans l'ordre, il y en a toujours eu. Et il n'est pas exagéré de dire que le père Lagrange a joué un petit peu un rôle équivalent, même s'il n'a probablement pas la même ampleur de sainteté, hein, mais a joué un rôle équivalent à celui qu'a pu jouer Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, hein, en tout cas du point de vue de la capacité à assumer les défis intellectuels du moment qui se posent. Hein. Là aussi, c'est des défis qui ne concernent pas nécessairement immédiatement le peuple de Dieu dans son entier. Au XIIIe siècle, peu de gens connaissaient Thomas d'Aquin, à part les universitaires. Mais 8 siècles après, l'Église entière vit sa doctrine. Eh bien, je crois que pour le père Lagrange, peut-être que plus tard, on verra la fécondité de son influence. Alors, vous l'avez deviné, donc c'est un savant, mais pour nous, nous partons de cette conviction que c'est d'abord un saint. Alors, l'Église n'a pas encore tranché. On attend toujours un miracle, et puis que le dossier se débloque. On espérait qu'avec le pape Benoît XVI, ça avancerait un peu plus vite. Avec le pape François, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, nous le considérons malgré tout comme une figure de sainteté. Et moi, je le présenterai vraiment comme ça. Ce qui fait que mon propos va être organisé de la manière suivante. Tout d'abord, je vous présenterai rapidement le parcours de vie, hein, un parcours dominicain exemplaire, pour avoir bien les repères des grandes dates et surtout des grands lieux, des grands travaux, des grands combats qui furent les siens. Puis, je m'arrêterai un petit peu pour essayer d'expliquer la nature des défis qui sont des défis doctrinaux, mais je vais tâcher de les rendre le plus simple possible, mais des défis intellectuels très forts qu'il a dû assumer. Pour terminer sur la troisième partie, sur les épreuves spirituelles, et c'est là qu'est vraiment la preuve de sa, si elle vient un jour au-delà des miracles, ce sera la preuve de sa sainteté. On verra la figure spirituelle qui a porté ces combats, comment il les a vécus spirituellement en disciple du Christ, très profondément épris. Et c'est ça, je pense, l'intérêt de montrer comment la vie intellectuelle de ce frère était tout entière portée par une vie spirituelle intense. Et la fécondité aujourd'hui, je pense, reposera pour une bonne part sur la manière dont il l'a vécu dans le Seigneur. Alors je commence tout de suite cette première partie sur, je l'appelle, un parcours dominicain exemplaire. Mais un parcours dominicain, comme il y en a eu des milliers, voilà, simplement il est très beau, très limpide. Alors je le divise en quatre, on peut diviser sa vie en quatre grandes périodes. La première période de sa vie, il est né en 1855, ici à Bourg, j'espère que je pourrai passer devant sa maison natale, 1855, il est mort en 1938, donc vous voyez, il est mort bien âgé, plus de 80 ans. La première période de sa vie, c'est évidemment la jeunesse, avant la vie dominicaine, tout ce qui précède la vie dominicaine, de 1855 à 1879. Puis viendra la période de la formation dominicaine, on verra les premières années de formation dominicaine, une dizaine d'années où il se forme comme jeune dominicain, un petit peu en Provence, beaucoup en Espagne, à Toulouse, en Autriche, voilà. Et puis viendra le gros bloc, qui est le cœur de sa vie, des 35 années qu'il a passées à Jérusalem, dans cette école biblique qu'il avait fondée, qui reste aujourd'hui en Corse, de ses belles œuvres. Et enfin, les trois dernières années de sa vie, c'est la quatrième période, où il est revenu dans le couvent de sa province, le couvent de Saint-Maximin en Provence, qui était le grand couvent de formation de sa province, où il est venu mourir. Il n'est pas venu pour mourir, mais de fait, il y est mort à la fin de sa vie. Alors, rapidement sur les premières années, j'insisterai pas trop, 1855-1879, naissance à Bourg-en-Bresse, son père était notaire ici, donc c'était un notable de Bourg. Je crois que ni son père ni sa mère n'étaient de Bourg. Son père était originaire de Saône-et-Loire, de l'autre côté de la Saône. C'était une famille de paysans aisés. Il avait fait de bonnes études, son père, au petit séminaire d'Autun, et avait réussi à acheter une des études de notaire de Bourg. Bon. Sa mère était d'une famille de la grande bourgeoisie lyonnaise, les Soyeux, vieille famille lyonnaise, les couples extrêmement catholiques, comme il y en avait au XIXe siècle, 9 enfants, il est le quatrième de 9, bon, 5 seulement ont survécu. Je résumerai simplement une famille extrêmement chrétienne, mais au grand sens du terme, un christianisme profond, une famille où l'on prie beaucoup, grande vie de foi, très exemplaire. Je crois qu'à l'âge de 4 ans, ses parents l'ont amené à Ars, évidemment, pour être béni par le Saint-Curé. Le père Lagrange a toujours dit que ça avait joué un rôle très important, sûrement, dans sa vie, cette protection du Saint-Curé. Il est envoyé à 9 ans pour faire ses études secondaires au petit séminaire d'Autun. Son père se souvenait de ça. Ne voulait pas l'envoyer à Lyon dans les grands collèges jésuites de grande bourgeoisie parce qu'il voulait qu'il soit élevé dans un cadre plus austère, plus rustique, plus bourguignon, à Autun. Voilà. C'est des nuances qui comptent quand même. Le père Lagrange insiste beaucoup là-dessus. C'était réalisme. On portait encore des sabots là-bas dans ce petit séminaire d'Autun, alors qu'à Lyon, évidemment, il aurait porté des escarpins de cuir. Il y reste jusqu'au bac, en 72. Il vient passer une année ici à Bourg, chez son père, mais tout en étant inscrit à la faculté de droit de Dijon. Il choisit les études de droit. Il part à Paris, où il passe 5 années de 73 à 78, jusqu'à son doctorat. Donc, vous voyez, un garçon qui a fait de très solides études universitaires. Il a beaucoup joui de la vie parisienne, très cultivée, allant beaucoup aux concerts, connaissant beaucoup de monde, allant aux courses. Il raconte qu'il allait suivre les courses à Auteuil ou à Longchamp. Mais en même temps, un garçon très chrétien. Alors ça, il faut insister beaucoup d'une foi profonde qu'il a toujours reçue de sa famille. Et surtout qu'il grandit, à l'intérieur du catholicisme de cette époque, c'est important de le dire, dans une mouvance qu'à l'époque on appelait assez facilement libérale, catholique libérale, c'est-à-dire des catholiques très profonds, mais soucieux toujours de laisser l'Église en phase avec son temps, d'éviter que l'Église ne se coupe trop de son époque. Le catholicisme français, pour ça, était très divisé à cette époque-là. Il a toujours été un peu, mais dans ces années 70, il y avait vraiment d'un côté les catholiques libéraux, représentés par le père Lacordaire, notre refondateur, qui avait toujours ce souci de pouvoir dialoguer avec les questions du monde. Et face à ça, il y avait plutôt ce qu'on appelait les intransigeants, très anti-révolutionnaires, méfiants vis-à-vis des principes nouveaux. Des deux côtés, il y a eu des grandes figures de sainteté qui ont produit des... Mais le père Lagrange était plutôt de cette veine de travailler. Alors, et dès ses études, comme chrétien, il disait mon propos, parce qu'il se sentait très vite appelé à une vie religieuse, et dominicaine depuis très longtemps, probablement, c'était de travailler, précisément, la réconciliation de l'Église du monde sur le plan des études, parce qu'il souffrait déjà beaucoup, comme jeune étudiant, de l'écart qu'il y avait entre la science... Nous sommes au 19e siècle, le siècle de la science, entre la science séculière qui progressait à grande vitesse, des inventions partout, dans tous les domaines, les sciences physiques, les sciences chimiques, mais aussi les sciences historiques, la science progressait beaucoup. L'écart entre les sciences et l'Église fermée sur elle, une doctrine un peu repliée qui risquait d'être décrédibilisée. Et dès cet âge-là, il dit « je souffrais du déshonneur de l'Église ». L'Église, on va se moquer d'elle, parce qu'elle n'est pas capable de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui. Et ça, il était très obsédé par ça. Il faut travailler pour sauver l'honneur de l'Église et de l'Évangile. Bref, la vocation grandit petit à petit en lui. Je passe sur les épisodes. Il voulait être dominicain depuis très longtemps, mais il a choisi de passer une année comme séminariste à Saint-Sulpice, le grand séminaire de Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, pour se préparer, se former, bon, laisser mûrir les choses. Père Lagrange a toujours laissé le temps mûrir. De sorte qu'il n'est rentré dans l'ordre dominicain qu'à l'âge de 25 ans, ce qui est tard à l'époque. La plupart des frères rentraient à 18 ans. Lui rentre déjà docteur, ça impressionnait beaucoup ses autres novices, et il rentre déjà docteur, bien mûr. Voilà. Il rentre dans l'ordre en 1879. C'est là que commence la deuxième période de sa vie, sa jeunesse dominicaine. Bon, je passe, c'est idyllique, tout se passe très bien, novice modèle, il est heureux comme tout. Par parenthèse, je dis qu'il a choisi, c'est curieux, de rentrer dans la province de Toulouse, dominicaine de Toulouse. Il y avait trois provinces en France à cette époque-là. La province de Lyon, ici, qui était sa province naturelle. Il aurait dû y rentrer. Il a toujours dit qu'il n'avait pas voulu y rentrer. Pourquoi ? Parce que cette province, à l'époque, était une province très intégriste, très, très intransigeante, très marquée par le refus du monde moderne. Et le père Lagrange ne voulait pas de ça. Ça, il le dit clairement. Il aurait pu et dû rentrer dans la province de Paris, qui était celle de Lacordaire. Mais il s'est senti appelé, mystérieusement, vers le Midi, qu'il ne connaissait pas du tout. Il semblerait qu'à l'occasion d'un voyage qu'il faisait en Algérie, il s'est arrêté à Marseille, il a prié devant l'église des Dominicains, il est tombé devant la Vierge du Rosaire qui orne notre église. Il semblerait que ça joue un rôle important pour le choix de sa province. Bref, il est rentré dans cette province, peu importe. Il a fait son noviciat à Saint-Maximin en Provence. Il a subi, comme tous les Dominicains de France, les expulsions, les premières expulsions, 1880. La République chasse les religieux non autorisés, c'est-à-dire presque tous les religieux, sauf les sœurs ici qui ont réussi parce qu'elles étaient plus prudentes, mais parce que vous faisiez du bien, alors les gens, les dominicains, ça servait à rien, donc on les a chassés. Exil à Salamanque, où les frères s'étaient réfugiés, où il a passé 6 ans, faire toutes ses études de philosophie, de théologie, et commencer d'enseigner à Salamanque, le grand couvent historique, superbe couvent du 15e, où il a été ordonné prêtre en 84, il a commencé d'enseigner. Ensuite, il revient à Toulouse quand la République se calme un peu, en 86, il passe 2 ans pour enseigner aux jeunes frères à Toulouse. Mais depuis son noviciat, il avait senti un appel à étudier l'Écriture sainte. Ça, c'est très beau, on voit dans son carnet spirituel, « Je ne peux pas me passer de la parole de Dieu, c'est toujours auprès d'elle que je me nourris. » Il a obtenu de son père maître d'être dispensé de faire des lectures spirituelles pour ne lire que la Bible. Donc il faisait tout par la Bible, il s'est pétri de la Bible, qui fait que très vite il a commencé à se former tout seul à Salamanque, à l'hébreu, alors qu'il avait de très mauvais professeurs, mais il a appris l'hébreu, le grec tout seul, bon. Il est devenu un bon spécialiste. Ce qui fait qu'en 88, ses supérieurs l'envoient à Vienne pour qu'il puisse se spécialiser dans les langues orientales, où il y avait une grande école d'études orientales à Vienne, où il apprend l'égyptien, le copte, l'assyrien, l'araméen, l'éthiopien, enfin il apprend toutes ces langues. Voilà. Et en 1890, coup de tonnerre, alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa province pour enseigner l'écriture, coup de tonnerre, on lui demande de partir à Jérusalem. 1890. Voilà, que s'ouvre donc sa troisième grande période de sa vie, qui va passer 35 ans à Jérusalem. Alors, Jérusalem, où il y avait depuis quelques années, les frères étaient revenus,
Ils avaient été chassés. Quand est-ce qu'on avait été chassés de Jérusalem? À la chute des royaumes latins du Moyen Âge. Donc il n'y avait plus de dominicains depuis le XIIIe siècle. La fin du XIIIe. Ils étaient revenus en 1880 avec cette idée d'être présents parce qu'il y avait les assomptionnistes, les capucins, les jésuites, donc il fallait que les dominicains y soient. Bon, on ne savait pas trop quoi faire. Et c'est là qu'a germé l'idée de faire une école biblique. De faire de la présence dominicaine un lieu d'étude de la parole de Dieu sur le terrain, mais d'une étude pratique, une étude sur le terrain, pour pousser vraiment des études. Et le père Lagrange a été, par ses supérieurs, le maître de l'ordre et par ses provinciaux, désigné comme étant l'homme providentiel. Il est envoyé pour fonder, ouvrir l'école dans des bâtiments qui n'étaient même pas encore construits. Et voilà. Et sa grande œuvre, première grande œuvre, ça a été de fonder cette école, qui existe toujours encore, hein, avec très peu de moyens. Il avait très peu d'étudiants. Alors, grâce à Dieu, les expulsions qui continuaient de rendre impossible d'ouvrir des couvents d'études en France fait qu'on lui avait envoyé quelques étudiants français pour étudier. Il a rassemblé quelques premiers disciples, comme professeur d'écriture sainte. Mais enfin, de 1890 à 1912, il reste à Jérusalem, il fonde l'école, il assure sa croissance, il écrit ses premiers grands articles d'écriture sainte, il mène ses premiers grands combats. On va voir les premiers grands combats, dont je crée le contenu. En 1897, se tient ce qu'on appelait à l'époque les grands congrès scientifiques internationaux catholiques. On réunissait des savants catholiques du monde entier. C'était toujours cette idée que l'Église était en retard et qu'il fallait qu'elle creuse ces dialogues avec la science. Et donc on rassemblait les grands savants catholiques du monde entier, des mathématiciens, des physiciens et des historiens, des biblistes. Et le père Lagrange fait une communication qui a fait beaucoup de bruit sur les sources du Pentateuque, qui lui a valu ses premiers ennuis. Évidemment, parce qu'on va voir qu'il ne tenait pas les positions qui étaient appréciées à Rome. En 1902, il revient à Toulouse faire des conférences qu'il appelle la méthode historique, où il théorise un peu son propos sur la manière de lire la Bible. Là aussi, c'est très mal reçu. C'est mal reçu à Rome, c'est mal reçu en France par des évêques qui se plaignent. Bon, ses premiers grands combats. En 1907, alors qu'il venait d'achever d'écrire son gros commentaire, c'était sa première grande œuvre, un commentaire complet du livre de la Genèse, gros commentaire, 1000 pages, interdiction de la part du secrétaire d'État, le cardinal Merivelval, de publier cet ouvrage. Donc, il ne peut pas le publier. Le manuscrit n'a pas plu, il ne peut pas le publier. En 1912, un décret romain, d'une congrégation romaine, interdit à tous les séminaires de l'Église universelle d'utiliser le commentaire qu'il avait écrit de l'évangile de Marc. Alors vous imaginez, ces commentaires étaient écrits surtout pour des séminaristes, parce qu'à l'époque, qui étudiait la Bible, sinon les séminaristes. Interdiction d'en faire entrer ce livre dans les séminaires. Grosse épreuve. Le père Lagrange est éloigné de Jérusalem pour une année. Alors ça, c'est... Voilà, il est invité gentiment à passer une année loin de Jérusalem, à Paris, à ne pas faire de Bible, à s'occuper de Bible, faire un peu d'archéologie. Il revient à Jérusalem l'année suivante, malgré tout, grâce à la bienveillance, malgré tout, du maître de l'ordre et même du pape qui lui dit il faut retourner. Voilà. On verra tout le problème du père Lagrange, c'est qu'on l'a toujours, on s'est méfié de ses positions et en même temps ses supérieurs n'ont jamais voulu qu'il arrête. Voilà. C'est toute l'ambiguïté. On sentait qu'il avait peut-être raison, mais on ne voulait pas le dire et on ne voulait pas qu'il le dise. Voilà. Donc, il dira on m'a jamais dit de m'arrêter, mais on ne voulait pas que j'avance. Bref, il retourne à Jérusalem un an, arrive la guerre, là, tous les Français, évidemment, sont expulsés de Terre Sainte parce que la Terre Sainte appartenait à l'Empire turc et l'Empire turc était allié de l'Allemagne. Donc, les Français, à peine être emprisonnés, ont été renvoyés en France. Donc, le père Lagrange a passé 4 ans à Paris où il n'y avait pas de couvent parce que les couvents étaient encore interdits. Il vivait dans un appartement. Bon. Il retourne à Jérusalem après la guerre, 1918-1935. Là, c'est des grandes années de maturité où il va écrire tous ses grands commentaires sur Matthieu, sur Jean, sur Luc, sur les Romains, sur l'évangile de Jésus-Christ. Bon, c'est les grandes années de maturité où il écrit ses grands livres qu'on utilise toujours encore aujourd'hui. Et enfin, 1935-38, retour à Saint-Maximin. Il était malade, fatigué. Il aurait bien voulu rester à Jérusalem, mais il a semblé opportun de le faire rentrer à Saint-Maximin, où il a encore pu écrire un petit peu, mais jusqu'à la fin de sa vie, en 38, un mois de sa mort, il a encore appris de la curie générale de l'ordre à Rome, un mois avant sa mort, qu'il était interdit de publier ce commentaire de la Genèse qui avait été interdit en 1912. Encore un mois avant sa mort, on lui dit non, il n'est pas opportun de le publier. Ce qu'on appelle le dernier chagrin du père Lagrange, il est mort. alors même qu'il était respecté et vénéré, à commencer par les frères qui l'entouraient. Voilà un peu pour le parcours de sa vie. Vous voyez, un savant qui a passé le cœur de sa vie à Jérusalem, à l'école biblique, à enseigner, à chercher, à publier, à faire des conférences. Alors, on va voir maintenant les deux aspects un peu importants. Oh là là, bon, je vais résumer à grands traits. Les défis doctrinaux. Vous voyez, c'est un exemple typique d'une question extrêmement grave que l'Église n'a pas vu venir. C'est ce qu'on appelle la question biblique, qui s'est posée de manière très douloureuse à la fin du XIXe siècle. Dans l'Église, on avait toujours enseigné que la parole de Dieu dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc tout ce qui est dans la Bible est vrai, littéralement vrai, à prendre au pied de la lettre. Et c'était le dogme de l'inspiration et de l'inhérence de la parole de Dieu. Donc il est écrit dans la Bible que Moïse a écrit tous les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, c'est écrit par Moïse. La Bible dit que c'est Moïse qui l'a écrit, donc c'est vrai, donc Moïse a tout écrit. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, dans le monde hors de l'Église, la science progressait, en particulier dans les universités allemandes, protestantes, où on appliquait délibérément la science historique, qui était en plein essor, on apprenait ce que fait de la science historique, c'est-à-dire, on ne se contente pas de légendes, on a toujours dit ça, donc c'est vrai. Non, on va vérifier. Qu'est-ce que disent les textes? Est-ce que les textes sont vrais? On dit qu'ils ont été écrits par ce monsieur, mais est-ce que c'est... Non, c'est pas possible, parce que quand le texte a été écrit, il était déjà mort. Bon, donc, la science, on applique les règles de la science pour un texte. Et évidemment, les savants allemands avaient vu depuis longtemps qu'il était impossible que Moïse ait écrit lui-même les cinq livres du Pentateuque, puisque on raconte la mort de Moïse dans ce livre. Moïse n'a pas pu raconter sa mort. Donc, vous voyez, ça c'est un... Il y a plein de choses comme ça, donc... Il apparaissait de plus en plus évident à ceux qui se donnaient la peine d'étudier de manière critique, scientifique, la Bible, qu'on ne pouvait plus tenir un certain nombre de positions sur la véracité intégrale et littérale de tout ce qui est écrit dans la Bible, en particulier sur l'attribution des auteurs, mais également à la rédaction. On découvrait de plus en plus que les livres de l'Ancien Testament avaient été écrits chacun à plusieurs étapes, selon plusieurs traditions. Et le père Lagrange, en bon savant, d'abord, en amoureux de la Bible, il savait que la parole de Dieu est vérité, qu'elle vient de Dieu et qu'elle est vraie. Mais comme savant, il voyait qu'on ne pouvait plus l'interpréter de la même manière. Qu'il fallait donc nécessairement ajuster. Et il a voulu vouer sa vie, dès le début, à ça. Travailler à faire évoluer l'Église sur sa manière de comprendre la Bible. On ne pouvait plus tout tenir de manière aussi sotte, que disait-il, aussi littérale, aussi précaire, parce que tout le monde se moque de l'Église. Et ça, c'était la souffrance du père Lagrange. Les savants du monde se moquent de nous. Vous continuez encore à croire que le monde a été créé en 6 jours parce que c'est écrit. C'est impossible. Si, c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Bon. Tout le monde se moque. Et le père Lagrange disait, il faut éviter les moqueries des infidèles. Déjà, saint Thomas disait, les catholiques, trop facilement, on se fait moquer parce qu'on est trop bête. On continue à dire des choses qu'on ne peut pas dire, et du coup, on se moque de nous. Eh bien, il faut défendre l'honneur de l'Église. On va, de ce point de vue-là, se plonger pour montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la vérité profonde de la Bible, qui est parole de Dieu, et l'évolution historique qui nous amène à interpréter différemment. Or, cette position n'était pas acceptée facilement, parce que beaucoup de gens disaient, introduire la science historique dans la Bible, c'est ruiner la parole de Dieu. On ne peut pas être croyant et en même temps écouter ce que disent les savants allemands. Alors en plus, c'est les Français, c'était très mal vu, parce que la science historique, elle venait d'Allemagne, donc c'est les Allemands qui veulent détruire la foi catholique. Bon. Mais il y avait tout ce contexte qui faisait qu'il y avait beaucoup de suppositions. Et alors le père Lagrange a souffert en permanence de se voir empêché d'écrire parce que ce qu'il disait froissait des oreilles au plus haut niveau jusqu'au Saint-Siège. Des gens qui n'acceptaient pas ce qu'il disait. Alors en fait, beaucoup acceptaient sans trop le dire, sans oser les dire. Il y avait des positions médianes. Le pape Léon XIII en particulier, qui était pape jusqu'en 1903, au fond, était assez d'accord avec le père Lagrange, mais disait qu'il faut être prudent. Alors tantôt il encourageait le père Lagrange, tantôt il le freinait, de sorte que le père Lagrange ne savait jamais trop où aller. Et puis, est arrivé le pontificat de Pie X, à partir de 1903, beaucoup plus dur, beaucoup plus intransigeant sur ces questions-là, en particulier tous les cardinaux autour de Pie X étaient des cardinaux très opposés à la lecture critique de la Bible. Et c'est eux qui ont fait condamner le père Lagrange systématiquement, enfin condamner. Voilà. Donc vous voyez, c'était la question, faut-il, oui ou non, introduire la Bible. Le père Lagrange avait la conviction intime au fond de lui qu'il fallait le faire, il n'était pas le seul. Mais il y avait encore beaucoup de gens dans l'Église qui pensaient que c'était dangereux. Et donc le combat est porté sur cette question. Alors, on va aborder simplement le dernier point maintenant sur la manière spirituelle. Vous voyez, le débat intellectuel, il est celui-là. Spirituellement, comment le père Lagrange a vécu ça? Beaucoup de savants de son temps, catholiques, avaient pris conscience comme lui qu'il fallait faire évoluer l'exégèse catholique. Il fallait introduire les soins. Le problème, c'est que plusieurs de ces grands exégètes catholiques français allaient très loin et ne tenaient aucun compte des avertissements que leur donnaient les autorités. Vous allez trop loin, c'est dangereux. Ou au mieux, on leur disait, on n'est pas encore capable d'écouter ce que vous dites, soyez prudents. Eh bien, beaucoup d'exégètes, malgré tout, le publiaient et le disaient. Ils n'écoutaient pas et ils quittaient l'Église. Et vous avez beaucoup de grands savants qui ont quitté l'Église dans ces années-là. Le plus célèbre d'entre eux, c'est l'abbé Loisy, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, hein, mais il y en avait plusieurs autres. Puisque l'Église est si bornée, nous quittons l'Église, et beaucoup même perdaient la foi. C'est pas possible de continuer à croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, et qu'il a, alors qu'on voit très bien dans les évangiles, tout ça a été inventé. Enfin bon, beaucoup de savants qui utilisaient la méthode historique perdaient la foi. Ce qui discréditait beaucoup le travail du père Lagrange. Hein, alors que le père Lagrange pensait vraiment qu'il fallait toujours rester fidèle à obéir dans l'Église. Voilà. Alors, la marque propre du père Lagrange, dans toutes ses épreuves, c'est qu'il a toujours obéi. Quand on lui a dit « tu ne publies pas », il a immédiatement arrêté de publier. Quand on lui a dit « tu ne parles pas », il ne parle pas. « Tu n'étudies pas ça », il a cessé d'étudier ça. Et on lui a dit « tu ne travailles plus l'Ancien Testament ». Quand le livre de la Genèse, on a dit « ton commentaire, on n'en veut pas », il a arrêté complètement les études d'Ancien Testament. Il s'est mis du coup au nouveau, puisqu'on ne l'avait pas interdit de faire le nouveau. Il a fait la même chose avec le nouveau. Et le nouveau, pareil, Saint-Marc, c'est un peu dangereux. Mais on ne lui a jamais dit d'arrêter de faire le Nouveau Testament. On lui a dit, pendant un an, tu fais autre chose. Et puis après, tu pourras recommencer. Alors ça, c'est un peu le drame du père Lagrange, c'est qu'on lui a toujours dit, tu vas trop vite. Mais au fond, ses supérieurs dominicains étaient plus ou moins convaincus qu'il devait bien avoir raison. Et en particulier parce que le père Lagrange impressionnait beaucoup ses supérieurs par la qualité de sa vie religieuse, spirituelle et fraternelle. On voyait que c'était un homme de Dieu, qui disait toujours qu'on ne peut pas étudier sans commencer par prier. Il insistait beaucoup, je devrais développer cet aspect, on ne peut pas être un bon exégète sans faire ce va-et-vient entre l'oratoire et le laboratoire. C'était sa devise. On ne peut bien étudier la Bible que si on commence par passer beaucoup de temps à l'Église. On ne peut étudier l'Évangile que si d'abord on l'écoute dans les nuages d'encens de la messe et de la liturgie. Après, on va pouvoir l'étudier scientifiquement. Mais d'abord, on le reçoit comme parole de Dieu. C'est comme ça qu'on aura le droit de l'étudier de manière critique. D'abord parce qu'on y croit. Donc cette spiritualité profonde de l'étude de Gilles Lagrange, qui le distingue de beaucoup d'autres exégètes de son temps, qui étaient purement et simplement des savants, puisque la science dit le contraire de la foi, je quitte la foi. Alors que le père Lagrange a toujours eu la conviction que la science n'était jamais contraire à la foi. Simplement, il fallait être patient, aider l'Église à évoluer progressivement. Et ses supérieurs qui le comprenaient et qui l'aimaient beaucoup, l'ont toujours dit, attends un peu, on t'interdit de publier ça, ça viendra plus tard, tu pourras le publier plus tard, mais continue de travailler. Alors, je vous lis quelques exemples de son journal. Mais son dilemme, c'était de dire, mes supérieurs me disent, ne va pas trop vite, mais avance quand même. Parce que le père Lagrange, j'aurais aimé qu'on lui dise peut-être, arrête tout et va faire de la pastorale. Mais jamais ses supérieurs n'ont dit ça. C'est-à-dire, va prêcher dans une paroisse. Non, ses supérieurs ont toujours dit, tu dois étudier scientifiquement la Bible. Mais n'étudie pas cet aspect-là, étudie tel autre livre, et puis plus tard, peut-être ce que tu écriras viendra, parce que probablement tu as raison. Alors, je vous cite par exemple un très beau texte qu'il a écrit. Il était tiraillé par ça. Faut-il renoncer à l'action ? L'action, c'était étudier scientifiquement la Bible. À cause de certains faits que je désapprouve. C'était les modernistes qui quittaient l'Église parce qu'ils avaient perdu la foi en étudiant scientifiquement. Mais dont je ne suis pas responsable. Je vois clairement, et je dois me régler sur cette clarté, que le mouvement s'étendra. Donc le père Lagrange était convaincu que ses positions étaient vraies. Non pas parce qu'elles viennent de lui, c'est très simple, mais parce qu'il savait, il avait compris, il avait étudié que c'était la vérité et que ce n'était pas du tout incompatible avec la foi. Donc il a eu toujours la conviction que tôt ou tard l'Église reconnaîtrait qu'il a raison. Que la crise passera, et que si toutes mes idées ne sont pas reconnues justes, on comprendra du moins qu'il faut marcher dans ce sens. Oui, il a toujours eu cette conviction. Si l'obéissance m'arrête, tout est bien, je cesse à l'instant. Si on me dit arrête, j'arrête. Mais tant qu'on me laisse marcher, et toujours ces supérieurs disent avance. Non. Désirant même que je continue, pourvu que ce soit avec prudence, est-ce à moi, par excès de scrupules et de justice, est-ce à moi de me briser et de faire croire au public que j'ai été abandonné alors que le père général de l'ordre travaille très sincèrement pour nous? Parce que le père Lagrange, ce qu'il refusait absolument de faire, c'était de tenir officiellement et publiquement les positions des conservateurs dans l'Église. Parce que certains à Rome voulaient que le père Lagrange écrive, mais écrive ce que les conservateurs ont dit, c'est-à-dire que Moïse a écrit tout le Pentateuque et tout le patatrac. Le père Lagrange dit, je suis incapable de dire ça. Je veux bien me taire, mais jamais on ne me fera écrire que je sais être faux. Vous voyez, l'obéissance de l'intégrité. On me dit de me taire, je me tais absolument. Et spirituellement, il est soumis. Il passait son temps à aller prier la Sainte Vierge, de lui donner ce que... Mais qu'on ne me force jamais à écrire ce que je sais être faux. En conscience, je sais que c'est faux. Et je sais que le temps va faire que on va reconnaître que j'avais raison. Marcher jusqu'à ce que les conditions faites soient équivalentes à une impossibilité, à un désaveu. Mais j'avancerai tant qu'on ne m'empêchera pas d'avancer. Si on me dit de ne pas écrire là-dessus, et qu'on me dit d'écrire sur autre chose, j'écrirai sur autre chose. Non. Dans ce dernier cas, ô mon Dieu, je ne me sens pas la force de faire davantage. Se retirer modestement de l'enseignement, prêt à faire tout le reste, serait-ce manquer à l'obéissance ? Il était prêt à le faire. Donnez-moi la lumière et la force, surtout sauvez-moi. C'est une très belle phrase, et encore ici. Après tout, j'ai le bénéfice de l'obéissance. Je suis où Dieu me veut, dans la pauvreté, l'obéissance, loin du monde. Il écrit, il était exilé à Paris. Et la solution se vient enchantement. Je ferai ce qu'a assigné l'obéissance, je suis prêt à faire ce qu'on me demandera, mais donner des approbations bruyantes, chercher à plaire, cela n'est pas exigé. Il aurait pu facilement écrire au pape X, tout ce que vous dites est vrai, je suis d'accord avec les positions intégristes. Ça, il ne voulait pas le faire. Il a toujours refusé de le faire. Et quand il a écrit sa soumission au pape X, il dit très clairement, je vous dis cette très belle lettre qu'il écrit à pape X, quand pape X dit « je ne veux pas qu'il publie son livre ». Parce que je me sens le cœur du Fils le plus soumis qu'il ne soit permis de dire à un père, le plus auguste, mais à un père, ma douleur des considérants qui paraissent attachés à la réprobation de plusieurs de mes ouvrages, en particulier d'être rationaliste. Que ces ouvrages contiennent des erreurs, je suis prêt à le reconnaître. Mais qu'ils aient été écrits dans un esprit de désobéissance à la tradition ecclésiastique, daignez, très saint père, m'autoriser à vous déclarer que rien n'était plus loin de ma pensée. Vous me demandez de me taire, je me tais, mais sachez qu'il n'y a rien en moi de rationaliste, et ceux qui disent que c'est vrai, mentent. Et je vous le dis franchement. Donc vous voyez cette franchise qu'il a à parler au pape directement. De sorte que le pape, à la fin de son année à Paris, lui a dit « Je veux que le père Lagrange vienne me voir à Rome ». Le père Lagrange tremblait. Après un an, il dit « Il va me condamner définitivement ». Le pape arrive, le reçoit, le relève. « Cher père Lagrange, repartez à Jérusalem, retravaillez l'écriture sainte, avancez ». Vous imaginez ? Alors même que le Saint Pie X était très méfiant sur ce qu'écrivait le père Lagrange. Mais il savait que le père Lagrange était un saint homme. Parce que le maître de l'ordre de l'époque, le père Cormier, qui était comme Pie X, très méfiant pour l'écriture, la science exégétique, mais qui aimait beaucoup le père Lagrange, savait qu'il pouvait avoir confiance en lui. Et c'est très beau de voir comment l'Église a eu confiance, sans oser le dire, et en sachant que le père Lagrange ne pouvait pas parler si vite de ces matières-là, que jusqu'à la mort, on l'a empêché de le faire. Mais c'est toujours soumis, et c'est ça qui fait la fécondité de son œuvre. Voilà. Alors, je vais conclure, parce qu'il est temps. Vous voyez, pour moi, le père Lagrange est un modèle admirable. D'abord, il a beaucoup souffert de l'étude, parce qu'étudier, c'est une épreuve, mais surtout de cette suspicion qu'il a entretenue quant à ses intentions. Il a souffert du fait qu'on l'ait empêché de travailler, il a souffert beaucoup de combats, d'attaques très basses, mais il s'est toujours soumis. Sans jamais penser qu'il fallait renoncer à avancer dans cette direction, parce qu'il était persuadé que ça venait de Dieu. Et que l'Église tout entière finirait, alors qu'il n'y a pas du tout d'orgueil chez lui, mais que l'Église tout entière, parce que c'était une évidence pour lui qu'il fallait étudier différemment la Bible qu'autrefois. C'était une évidence. Simplement, à Rome, on ne la voyait pas. Et dans beaucoup de temps, on ne le voyait pas. Il a toujours obéi, mais il a toujours continué à travailler, et son obéissance, je crois, est vraiment féconde, parce que le Concile Vatican II a fini par reconnaître et officialiser définitivement dans l'Église tous les principes que le père Lagrange avait énoncés presque un siècle avant. Enfin, pas tout à fait, c'est 80 ans avant. Et je pense que c'est par son obéissance que ça a été vraiment fécond et que ça a permis à l'Église de progresser. Et maintenant, je crois que tout le monde est reconnaissant. Et ces positions du père Lagrange paraissent même d'ailleurs un peu dépassées par certains. Alors que moi, je pense que les principes sont toujours tout à fait fondamentaux. Voilà, donc je m'arrête là sur cet exemple. Vous voyez, Bourg-en-Bresse a fourni, je pense, un des grands savants de l'Église, grand non seulement par sa science, mais surtout parce qu'il a su allier la science à l'obéissance. Et c'est ce combat intime qui fait la fécondité ecclésiale de l'Église. Alors que la plupart des modernistes, on n'en parle plus. Tout ce qu'ils ont écrit est un peu dépassé, alors que le père Lagrange, ce qu'il a écrit, est dépassé dans certaines conclusions historiques, mais reste très vrai théologiquement et spirituellement, parce que c'était vécu dans l'obéissance à l'Église. Voilà. Moi, je résume un peu.
Un très grand merci pour ce portrait.